Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 31 mars 2018 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 40e volet de l'Entrepode. Alors un Entrepode très spécial car déporté à presque 400 km de Rouen où notre équipe a été invitée à participer à Podrennes, une énorme convention du podcast. Parlons un peu de cette grande et belle ville qui nous accueille. Alors Rennes a vu le jour sous le règne de Louis XV qui, en arrivant dans cette vallée désertée, s'écria « Ah, que Rennes !» qui, en dialecte breton, veut dire « Donne-moi donc un verre de Souchène, j'ai terriblement soif !» D'où la célèbre rue de la soif qui devrait ravir les papilles d'une de nos chroniqueuses. Mais attention, ne nous arrêtons pas simplement à cette rue, car du moment que le degré d'alcool dépasse 4,5 sur l'échelle de la bouteille, elle est contente, j'ai nommé Starlet.
Salut.
Ah, elle est pleine d'histoire, triste à mourir, toujours sous la flotte, avec un plafond très bas, très humide, un univers pour lire du Pellatart ou un truc bien glauque dans le genre, pour accompagner ça, une musique bien déprimante. Mais je lui fais confiance, il va forcément vous ramener de la ville sans clocher ce qu'il faut pour vous finir, j'ai nommé Christophe.
Bonjour.
Et le vieux Rennes, des ruelles, toutes petites ruelles, toutes petites que même lui trouve très grandes, terriblement grandes. C'est bien simple, il arrive à tomber entre deux pavés. Alors si on veut pas qu'il tombe dans une bouche d'égout, on lui lâche pas la main, ok? J'ai nommé Arnaud.
Bonjour.
Ah, et voilà, une spécialiste des vieilles pierres, des vieux bâtiments, de l'histoire d'une ville, des... Bon, laisse tomber, elle aussi, la rue de la soif, ça devrait le faire car elle crache pas dessus la bougresse. J'ai nommé Didouille.
Salut tout le monde.
Ah, et celui-là, amoureux des langues diverses et variées, capable de vous mélanger du normand et du breton. Ah, je vais me brailler les pattes, Canavo. Didouille, où c'est que t'as mis la voiture? Il saura vous ravir de ses questions à rallonge et interminables. J'ai nommé Lulu.
Bonjour à tout le monde.
Pour ma part, je ne serai présent qu'à invité au printemps de Montcly, où, en plus de jouer de la musique, je devrais me délecter de l'excellent breuvage que Didouille et Starlet affectionnent tout particulièrement. J'ai nommé le Bourgogne. Je vous laisse donc avec celui qui est notre guide spirituel, celui que nous suivons corps et âme jusqu'à cette ville de Rennes. Il pourrait nous amener à faire une émission à Maubeuge pour la fête de la fricadelle frite, que nous le sauverions quand même. Allez, fais voir à ces bouvures tout jeunes ce que nous sommes capables de faire. C'est à lui, reprend les rênes de cette émission. J'ai nommé Nico. Ciao les amis.
Bonjour.
Et en fait, j'adore Rennes. Voilà. Ciao.
Eh bien oui, bonjour à tous. Merci à Rennes de nous accueillir, à Podrennes de nous accueillir. Donc nous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, donc
c'est
d'autant
vrai.
Plus sympa de se retrouver ici. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il n'y a pas d'invité, donc on est quasiment tous là. Hein, il ne manque que Marius, celui que vous venez d'entendre là, et qui est parti picoler en Bourgogne, hein, qui a préféré aller boire un autre breuvage ailleurs. Et puis Freddy, qui a préféré rester chez lui plutôt que de passer un week-end complet avec nous, donc c'était un peu trop pour lui, on le comprend. Donc, un épisode sans invité pour l'Entrepode, ça veut dire uniquement des rubriques de la bande, et un quiz qui sera animé par Ludo, donc un petit quiz, peut-être vous pourrez y participer. Et pour finir, nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes. Donc, avant de commencer, on va préciser un petit peu le contexte, je pense que tout le monde ici ne connaît pas forcément l'Entrepode. Donc, l'Entrepode, c'est un rendez-vous qui est quasiment mensuel entre nous huit, hein, donc on est des amis plus ou moins de longue date, il y a donc tous ceux qui ont été cités ici. Ça a été lancé il y a 5 ans, déjà. Déjà 5 ans qu'on fait nos conneries.
Et oui.
On attaque notre 6e année. Et puis l'idée, hein, on rebondit pas mal. Enfin, on s'est bien retrouvé dans le débat qui a eu lieu juste avant là sur est-ce que ce qu'on disait pouvait être intéressant, pouvait intéresser les gens sur la durée, etc., etc.
C'est jangulé sur la durée d'ailleurs.
Voilà, souvent il y a des débats sur la durée. Et puis ce qu'on se dit surtout, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un bon moment, se retrouver entre nous et passer échanger déjà. Et on se dit que si on arrive déjà à nous intéresser les uns les autres, on arrivera peut-être à intéresser du monde. Donc Et j'ai noté la notion de consentement qui a été évoquée juste avant, où on disait que les gens n'étaient pas obligés de nous écouter. Là, on est désolé, vous allez devoir nous écouter pendant 1h20, parce que vous n'avez pas le choix, il n'y a rien d'autre à cette heure-là, donc vous pouvez aller dehors.
C'est un peu comme avec ma femme. Je n'ai pas...
1h20, l'autre.
Prétentieux.
Il a dit qu'elle l'écoutait. Hein.
Sinon, j'ai pas le droit aux 3 minutes 30.
Donc, en fait, on a plutôt des émissions qui font 2 heures, voire plus. Donc là, c'est un vrai challenge pour nous de tenir dans les 80 minutes. Donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça. Et je vais déjà demander à quelqu'un de Rennes de venir, de Podrennes d'ici. Alors, péremptoire, si tu peux venir ici. On m'a cité ton nom. Donc pour venir un petit peu expliquer à nos auditeurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir à Podrennes. Donc nous expliquer un petit peu Podrennes, qu'est-ce que c'est et pourquoi nous avoir invité, etc.
Bonjour Podrennes, heureux. Alors Podrennes, c'est quoi? C'est un petit événement sur le podcast à Rennes, bien sûr. C'est à Vital et Léon Bert, mais on s'en fout. Oui, donc cette année, gros événement, hein, parce qu'on a eu un petit succès, on n'est pas mécontents. on a un petit peu doublé la jauge. Voilà, on était parti de 45 personnes, on a 80 personnes maintenant.
Bravo.
Donc toute la logistique, oh là là, quel bordel, vous dire. Ne faites pas ça. Alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Depuis quand date Podren? D'où vient l'idée? Qui sont les personnes derrière
Podren? C'est l'anecdote. En fait, il y a 5-6 ans, j'étais à Rennes et je me demandais quels étaient les podcasteurs qui étaient à Rennes. J'avais lancé un doodle. Framasoft, c'est trop tôt. Un doodle pour savoir qui était à Rennes et au bout d'une heure, 30 personnes étaient inscrites. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'ai rien préparé, comme à chaque podcast.
Comme nous.
Et donc des gens sont venus de toute la France pour boire des coups le temps d'une soirée. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et avec Bad Geek, on s'est associés. Et maintenant, chaque année, aux alentours, les dates ne sont pas toujours pareilles, on loue une salle et une sono et puis venez enregistrer, venez vous rencontrer. C'est un peu notre moto, la rencontre.
Écoute, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir invités, de nous faire partager un petit peu.
Un plaisir.
Votre expérience.
Puis le gîte et le couvert aussi, on a mangé et tout ça.
Oui, voilà.
Un repas chaud, ça, c'est toujours une bonne chose pour nous. C'est...
Surtout pour toi.
Oui, c'est dommage, il n'y avait pas de viande, mais sinon c'était bien quand même.
Oui. Et le repas était froid aussi.
Oui, bah, oui mais bon.
Bon, commencez pas à faire vos lourds, on ne viendra plus après. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis donc l'année prochaine, si je comprends bien, peut-être
un
zénith, quelque chose comme ça, c'est ça, non?
Alors le zénith, ou un truc comme ça. Bercy, on ne sait pas, on va voir.
Ça sera plus pour
essayer de développer, continuer à développer l'événement pour avoir toujours plus de monde, toujours plus d'émissions, de rencontres, essayer de favoriser ça encore plus chaque année.
Et juste une dernière précision, ça n'est pas consacré uniquement aux podcasteurs, il peut y avoir aussi des auditeurs.
Ah oui, alors tout le monde est invité, hein, podcasteur, poditeur. On essaie toujours de faire en sorte d'avoir un micro ouvert à tout le monde, on l'a bien vu pour le débat avant, et aussi d'avoir des ateliers comme la Podjam qui permettent de mixer les équipes, les podcasteurs, les non-podcasteurs, les curieux. Et ça donne toujours des beaux résultats. On est toujours assez content de voir.
Créer des vocations.
Des belles émulations.
Et justement, tu peux expliquer ce que c'est que la Podjam?
Je vais prendre la chaise.
Vas-y, oui. Je commence à avoir une crampe.
Alors, vous connaissez les Game Jam, c'est le principe de... pendant un week-end, on va créer des équipes de développeurs, de graphistes... Et avec un thème donné, pendant un week-end, l'équipe va devoir créer un jeu vidéo de A à Z. Et nous, on a repris le principe et on propose aux gens de participer. Ils s'inscrivent sur le site et on tire au sort des équipes complètement au hasard. Et on leur propose de créer une émission de 15 minutes pour passer devant la scène, devant tout le monde, le dimanche matin. Soyez ponctuels, 9h30. Cette année, on est assez fiers parce que une émission de l'année dernière, après ça on peut mourir tranquille, a débuté l'année dernière. On continue toute l'année et on fait leur dernière émission, feu. Ouais. Ils sont là, juste derrière. Ils ont fait leur dernière émission.
Ils ont l'air en pleine forme pour des morts quand même.
Ils ont ouvert Podren ce matin et c'est une belle fierté. On est assez contents d'avoir vu ça.
Et bah, très bien. Merci péremptoire. Bravo à vous, effectivement. Parce que c'est du travail. Enfin, quand on suit un peu sur les réseaux sociaux, on sent que vous avez dû donner de votre personne sur les dernières heures, là, en tout cas. Donc, bravo à vous. Donc, on va pouvoir commencer avec notre émission. Donc, pour se présenter rapidement, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient assez pointilleux sur certains points, à droite, à gauche, etc. Nous, notre but, c'est absolument pas de nous poser comme des experts de quoi que ce soit, c'est de passer un bon moment, c'est de créer de l'échange, du partage, de dire ce qui nous a plu les uns les autres. On a tous certains nos petites marottes. Mais en tout cas, voilà, si vous, n'hésitez pas à nous contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit.
On n'aime pas trop ça quand même.
Mais enfin, dites-le, c'est bien. Dites-le dans votre tête en tout cas. Voilà, et donc pour commencer, on va laisser la parole à Christophe, notre Christophe qui a un petit jingle.
Merci. Et c'est ça. Et je vais te raconter un exemple que c'est intéressant. Et c'est ça, YouTube c'est important.
Et donc Christophe, de quoi tu nous parles? Un bouquin comme d'habitude?
Justement non, hein, une fois n'est pas coutume, effectivement ma spécialité c'est plutôt les livres, mais je sais pas, j'ai voulu vous parler d'un film, parce que ce film m'a vraiment marqué. Alors voilà, c'est un film un petit peu particulier, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est le premier long métrage de Bertrand Mandicot qui s'appelle Les Garçons Sauvages. Pas du tout.
Ça donne envie.
Ça ne dit à personne. Ça ne m'étonne pas.
C'est un film triste.
C'est-à-dire qu'ils ont des têtes d'un cul,
pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout un film triste. Au contraire. Donc Bertrand Mandico vient un petit peu du cinéma expérimental. Et vous allez comprendre. Et donc ce film-là est vraiment étonnant. Il est qualifié par certaines critiques déjà de film ovni parce qu'il est dérangeant, déroutant. Et il est réalisé avec une très très grande liberté. Et donc, dans cette atmosphère un petit peu onirique et viscérale à la fois, on a un espèce d'imaginaire fantasmagorique où la poésie sulfureuse se rencontre. Et c'est vraiment un film improbable, inclassable, qui déborde d'audace, sans avoir peur du ridicule, par moment, ou en tout cas en l'assumant vraiment pleinement. Juste pour vous donner envie, je vais vous faire un petit pitch, mais évidemment, c'est toujours très délicat de parler...
Avec des pépites de chocolat ?
C'est ça. C'est toujours très difficile de parler d'un film sans
déflorer le sujet.
Sans déflorer le sujet, mais tout en donnant envie d'aller le voir. Donc le pitch. Donc cinq jeunes adolescents de bonne famille violent et assassinent leur professeur de lettres.
Jusque là, toi.
Ah, je comprends pourquoi ça t'a donné envie de le regarder.
Voilà. On vous avait prévenu. Hein, ouais, vous avez dit tout ça.
Là, on retrouve Christophe. On retrouve vraiment Christophe.
Ça nous manquait. Attendez, j'ai peur. Je crois que c'est sérieux là.
Attendez, j'ai même pas encore.
C'est très poétique.
Violent et assassinent leur professeur de lettres dans le cadre d'un atelier théâtre.
Normal.
Qui dérape un peu.
Ah, c'est avec Isabelle Adjani.
Pas du tout.
Non. Ça, c'est la journée de la jupe.
Donc, évidemment, un procès, malgré tout, s'ensuit, mais ils parviennent à être innocentés, ces cinq jeunes garçons, parce que le mensonge, pas de témoin, et puis finalement, ils arrivent à faire retomber toute la responsabilité sur la prof, un peu d'info. C'est de sa faute, en gros. Ouais. En gros, c'est de sa faute. Mais quand même, les parents, ils se posent des questions, ils décident quand même d'essayer de remettre leur garçon dans le droit chemin. Et donc, pour ce faire, ils font confiance à un espèce de mystérieux capitaine hollandais qui organise avec son bateau des périples en mer, dit des croisières de redressement. Assez bizarre. Au cours du voyage en bateau, le capitaine commence déjà à se montrer très très dur avec eux. Et les jeunes garçons sont vraiment traités comme des moins que rien, comme des chiens attachés par le cou avec des laisses, etc.
C'est quand même c'est louche pas... ton truc.
Enfin, bon, oui, c'est très louche, mais attends,
c'est pas le début là.
C'est que le début là.
C'est Pascal le grand frère chez les Sadomaso.
Ils finissent par débarquer sur une île. Et l'île se nomme l'île des plaisirs, où pousse une végétation luxuriante complètement atypique. Où l'on trouve des fruits aux formes très très évocatrices, des plantes qui semblent étrangement sexuées. Et le capitaine, évidemment, incite ces jeunes garçons à consommer toutes ces merveilles de la nature. Et lui, il s'éclipse. Pendant ce temps-là, un des garçons, quand même, se pose des questions et décide d'aller de suivre le capitaine qui va retrouver un certain docteur Séverin dans la montagne. En fait, c'est une femme.
Oh, c'est bizarre.
qui l'amène à des garçons en échange de bijoux. Voilà, je ne vais pas en raconter plus.
Oh tu ne peux pas t'arrêter là.
Ah si. On est dans une espèce de roman organique, un espèce de Jules Verne mêlé de divagations et d'autres fantasmes.
L'île du docteur Moreau, un peu, ton histoire.
C'est plutôt un balance ton port.
Les garçons sauvages, en fait, finissent par composer un sensuel et provoquant une provocante métamorphose, on va dire, sans trop dévoiler quoi que ce soit, voire même complètement hallucinant. Et le point très intéressant du réalisateur, en fait, c'est qu'il a fait le pari audacieux, en fait, de faire jouer le rôle de ces garçons, ces petits cons à tête à claque, par des actrices. Et le résultat est vraiment bluffant, parce que vraiment ça fonctionne et ça vient créer le trouble. Parce que
jusque-là, il n'y avait pas. Hein.
Jusque-là, tout allait bien, tout était normal.
Et en fait, ce qui est vraiment... pourquoi ça vient créer le trouble ? Parce que la question du genre... c'est la question du genre qui est posée dans ce film par le biais d'une provocation, d'une dimension très provocante, on va dire plutôt. C'est-à-dire que le genre est déconstruit, puis réinventé. Alors donc voilà, ce film a le don de brouiller les pistes et de s'amuser avec les genres du cinéma. En fait, il se moque un peu de tout le monde, du cinéma d'aventure, du cinéma fantastique. Mais en même temps, l'auteur arrive à nous faire entrer dans une espèce d'émotion, et émotion de l'émerveillement, dans le burlesque, dans la métaphore. Et ce qui peut, par moments, lui conférer un côté drôle et loufoque.
Tu l'as sorti d'où ton... Il date de quand?
Il vient de sortir. Alors, il sort que dans, il est que dans les cinémas d'art et d'essai. Il est sorti, moi, je l'ai vu il y a 15 jours. Donc, ce n'est pas si vieux que ça.
D'accord.
Donc, forcément, dans les salles de... de d'art et d'essai, parce qu'évidemment, dans les multiplex, vous ne le trouverez pas.
C'est dommage. C'est certain. C'est dommage.
C'est une certitude absolue. Mais je pense que ce film va devenir culte, en fait, dans 20 ans.
Tu m'as intrigué, moi j'ai envie d'aller.
Et donc, c'est là l'avantage du podcast, peut-être, c'est que dans 20 ans, quand vous réécouterez ma rubrique,
vous direz comme merde.
Ah ouais. Peut-être. Non, en fait, ce film vraiment fonctionne comme un voyage initiatique, tant pour les personnages du film que pour le spectateur. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué, parce que c'est une espèce de fable complètement décalée. Dans laquelle il faut vraiment accepter d'entrer sans trop se poser de questions. Parce que le film est tellement radical à tout point de vue qu'il peut vraiment braquer, voire totalement rebuter, quoi. Et si on ne se laisse pas porter complètement par le récit qui est complètement barré, mais aussi la mise en scène qui l'est pas moins, eh ben on risque ou de s'ennuyer ou de rire beaucoup. C'est selon.
Ouais. Il dure combien de temps, ce film ?
Il dure à peu près 2 heures.
D'accord.
Ouais. Enfin, petit conseil, si vous avez l'occasion de voir ce film, restez au-delà du générique, parce qu'il y a une dernière image qu'on appelle...
Ah, générique de fin, oui.
L'image post-générique, voilà, comme on dit. Et donc, et qui apporte en fait une dimension supplémentaire au film. Et moi, ça me fait marrer, il y a des gens qui sont sortis pendant le générique à la fin du film. Et finalement, bingo, le générique se termine. Et là, il y a une dernière information qui scotche tout le monde.
Qu'il ne faut pas louper, en fait.
Qu'il ne faut pas louper. Donc voilà, c'est vraiment un film très, très conceptuel, en tout cas avec de très belles images. Mais pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la finalité de ce film, finalement, moi, ce que je trouve, porte indirectement un propos revendicatif et qui est plutôt d'actualité. C'est la violence faite aux femmes. Donc voilà, c'est mon interprétation. Maintenant... je vous laisserai juge
contredire si
vous avez l'occasion de le voir. En tout cas, c'est un film d'une originalité folle et à tout point de vue, d'où ce terme, je pense, d'OVNI, que j'ai pu lire de part et d'autre, parce que c'est vraiment un film qui vient de nulle part, en fait, qui est vraiment d'une autre planète, quoi.
Même sur la mise en scène, parce que j'ai vu juste la bande-annonce, ouais. C'est des images... des images psychées.
Alors, il y a des images psychédéliques. Il alterne la couleur et le noir et blanc, mais sans forcément de lien avec le récit. C'est-à-dire qu'on est dans la même scène, puis subitement, cette scène passe du noir et blanc à la couleur ou l'inverse. Et on voit pas le lien. Moi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai lu beaucoup de critiques. Et en fait, même les critiques dites spécialistes dans le cinéma ne font pas forcément... le parallèle entre pourquoi ces passages au noir et blanc et dans le cadre du récit, ouais, etc. C'est-à-dire que le type, il s'est laissé une liberté absolue, mais quand je dis absolue, c'est absolu. Et le résultat est vraiment grandiose, tant sur l'idée, parce que je ne peux pas forcément dévoiler...
Attention hein.
Non, mais sur l'idée, sur les images, sur la mise en scène... C'est vraiment un film à aller voir ou en tout cas à se procurer. Je ne sais pas s'il sortira un jour en DVD, mais toujours est-il que peut-être que dans 20 ans vous penserez à moi.
c'est beau ça pour la postérité. Merci Christophe.
Voilà.
Donc Les Garçons Sauvages.
Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Okay.
Donc quelqu'un l'a vu dans la salle ici. Oui.
Alors.
Un Normand en plus.
Bah,
vas-y.
Un avis.
Vas-y, viens.
Oui, au contraire, ouais, j'aimerais bien avoir des avis, moi.
Podcast Normand en force. Hein.
Ouais, voilà. Geek et légende.
C'était pas préparé, ça.
non, mais j'ai pas vu le film, mais cependant, dans.
Ah, bah d'accord.
Dans Mauvais Genre, avec François Angelier, je sais pas si ça vous parle. Oui. Ils en ont parlé il y a 4 semaines et Bertrand Mandico était invité. Et les journalistes qui étaient autour de la table en parlaient exactement les mêmes termes que toi. La fascination qui était autour du film et ils parlaient aussi de cet après-générique. Et ça m'a vraiment donné envie, d'autant plus Donc là, je vais vous laisser, je vais aller au Cinoche. Hein.
Salut. Okay. Bonne séance. Hein.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, là.
Bien. Oui,
Starlette s'appelle aussi maîtresse Domina, hein, dans une autre vie.
Bonjour. Dans la mienne.
Salut.
Moi, je l'ai vu au Hall, d'ailleurs. Donc c'est un cinéma où il y a toutes sortes de films. Hein. C'est pas
à Paris.
C'est à Paris, oui.
Ouais, moi aussi, je l'ai vu à Paris.
Day One. Enfin,
ouais. Les multiplex où il y a pas mal de.
Bah, au Hall, ouais, il y a tout. Hein.
D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais.
Y a Avengers, il y a ça.
D'accord. Exactement.
Et le film, oui, il y a du noir et blanc en fait sur la quasi-totalité. Et c'est joué un peu comme une pièce de théâtre. On ne sent pas trop qu'on est dans un long métrage.
Ouais.
Ça se joue un peu, c'est très criant. Ça surjoue même parfois. D'accord. Mais ce n'est pas de mauvais goût. Mmh. Seulement, il y a quelques moments où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Notamment le début, en fait, où on est plongé dans une espèce de France du début du 20e.
On a du mal à connaître la période à laquelle ça se passe.
Je crois que c'est début 20e, parce que c'est bourgeoisie, etc.
C'est ça, oui.
Tu l'as dit. Mmh.
C'est le côté, Jules Vernesque, non?
Oui, alors ça, par contre,
peut-être, ouais.
Ça, par contre, je vois pas ce
deux
que
ans,
je voulais dire.
Deux ans de vacances, peut-être, qu'en fait, comme Jules Verne écrit des bouquins...
Bah moi, c'est le côté Jules Verne, c'est l'île, en fait. L'île, oui. L'île mystérieuse, en fait, qui fait que ça m'a fait penser à Jules Verne. En fait.
Moi, j'ai lié ça plutôt au propos principal du film, l'exotisme, en fait, dans le mode de pensée par rapport à l'époque.
Oui.
Où c'est vraiment un décentrement du regard à une époque où, justement, c'était très, très fixé.
Ouais.
Et vu que c'est début des années, je crois que c'est début du, c'est à l'avant-guerre en fait, l'avant Première Guerre mondiale, il me semble. Donc on est très dans les, c'est très chacun sa place quoi. Et c'est joué par cinq actrices.
Cinq actrices, ouais.
Et pas toutes connues.
Non.
Certaines ou
pas du tout même. Certaines pas du tout connues.
Certaines qui c'est leur preuve, dont c'est leur premier film.
Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais moi, j'ai pas vraiment aimé, hein, parce que déjà dès le départ, en fait, je trouve que le film il balance trop de psychédélie justement pour ensuite se calmer. Et là, je me suis dit, mais en fait, il m'a tout balancé au début pour planter le décor. Et maintenant, je suis plus aussi, subjugué par ce qui se passe, quoi, parce que je voyais les gens qui, au fil du film, les gens s'en allaient.
Moi, personne a quitté la salle.
Je crois que c'est un film qui laisse pas indifférent de toute façon. C'est, je crois que tu dois être.
C'est ça. Ce film, c'est tout ou rien. C'est où on adore ou on déteste. Parce que je pense qu'il n'y a pas de.
Ouais.
C'est difficile d'avoir un entre deux, quoi.
C'est un film très sensuel, très sexuel.
Oui. Tout à fait.
Donc c'est soit on accroche, soit on n'est pas bien. Bon, moi, j'ai décidé de rester jusque la toute fin. Ouais. C'est vrai qu'à la toute fin, c'est intéressant.
Bah oui.
Parce qu'il y a un propos philosophique.
Pas trop, les gars.
Non, j'ai rien, mais y a, ça ouvre des perspectives plus philosophiques que ce que
tout
le film
fait.
Laisse à penser. En fait.
Exactement.
Voilà.
Je suis assez d'accord.
Ben, merci beaucoup.
Donc tu nous rappelles le titre, Christophe, pour ceux qui rejoignent là.
Les garçons sauvages de Bertrand Mandico.
Merci beaucoup.
Merci pour lui. Prends ta dose, Christophe.
Merci.
Tu vois, ça s'est bien passé, Christophe. Ils
oui,
sont très
oui,
gentils, les gens ici. Ils sont bienveillants et tout. Merci à tous.
Non, mais je ne suis pas forcément à l'aise avec le cinéma.
tu es très bien débrouillé, en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir. Hein, parce que c'est, ça a l'air quand même bien barré, ton histoire, là.
Ouais,
sans transition aucune, ça va être à mon tour donc, de parler de ma petite rubrique « Les fonds de tiroir ».
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Les fonds de tiroir. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'une série que j'avais pu regarder récemment. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont vu. C'est la série The Leftovers. Qui est de Damon Lindelof. Alors c'est une série qui est pour moi un vrai coup de cœur, mais je voulais pas la mettre en coup de cœur en fin d'émission parce que j'ai un peu plus de choses que 60 secondes à dire dessus.
Oh merde.
ouais, c'est vrai que ceux qui me connaissent savent que je peux vite m'éterniser sur des sujets. Donc The Leftovers, je vais baisser un petit peu le son. C'est une série qui est en 3 saisons, 28 épisodes, qui est terminée là depuis quelques semaines. Donc l'histoire, le pitch, du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Les gens, tous âges, tous horizons, etc., disparaissent dans la nature sans aucune explication et laissent leurs proches dans l'angoisse. Donc on a vraiment un côté très fantastique dès le début. Et puis 3 ans plus tard, c'est là que commence la série, enfin que commence le vrai cœur de la série, la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, qui est la ville dans laquelle se déroule l'histoire, c'est du côté de New York. Mais en fait, plus rien n'est plus comme avant. Tout le monde a un petit peu changé son quotidien, etc. Et à l'approche de la commémoration, on sent qu'il y a une petite tension qui commence à s'installer entre les survivants et puis finalement une espèce de secte
de gens habillés tout en blanc, qui fument à longueur de journée, etc. On comprend pas trop et on sent qu'il y a une espèce de tension qui se crée. Donc voilà comment commence cette série. Donc c'est c'est une série qui est vraiment, comme je disais, assez orientée fantastique, hein, puisque dès le début, on ne sait pas d'où ça vient, mais 2% de la population, qui, pourquoi, comment, etc. Ça, on ne le sait pas vraiment. Et Damon Lindelof, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui avait fait la série Lost. Donc là, on a encore une histoire de...
Ah oui, ça y est. Oh là là, je sais, bon...
Donc je reviens, moi j'avais pas trop aimé Lost d'ailleurs.
Justement, j'espère que c'est mieux ficelé que Lost.
Bah, tu me diras à la fin, voilà, si ce que je t'ai dit te donnera envie de le regarder ou pas.
Non, c'était bien Lost.
Oui, non, c'était pas bien. Oui, j'aimais bien.
À part alors on fait un débat, tiens.
Il y a un débat.
C'est ça.
Donc voilà, là c'est encore une histoire de disparu, hein, cette série The Leftovers. Mais là, on traite de ceux qui restent. Pas ceux qui ont été perdus, c'est ceux qui restent, qui finalement sont assez perdus dans leur vie, en fait, finalement. Donc c'est tiré d'un livre, le livre de Tom Perrotta qui s'appelle « Les disparus de Mapleton », qui sert de trame à toute la première saison. Et après, forcément, ça s'en éloigne. Donc, comme je disais, sous les abords assez fantastiques, on a une série qui est plutôt très humaine, très mélancolique, qui parle beaucoup de tristesse. Mais paradoxalement, je trouve, c'est une série qui nous fait nous sentir vivants. Quand on la regarde, on est content de la voir. Et c'est fait surtout de manière très, très poétique. Moi, je trouve qu'elle a fait du bien. Quand on finit les épisodes, on est content. Enfin, je ne sais pas comment le dire. On a un espèce de sentiment assez, assez agréable. Où en étais-je ? Donc, l'histoire, pardon. Ça tourne autour de deux personnages qui sont assez torturés et de leur entourage. Donc, Kevin Garvey, qui est joué par Justin Theroux, je ne sais pas le prononcer, désolé, et Nora Durst, Carrie Coon, qui ont leur vie, qui sont chamboulées suite à ce grand départ des 2%. Kevin, lui, il n'a perdu aucun proche, mais par contre, il est blindé de névrose, il n'y a rien qui va dans sa vie. Et il a quand même un petit peu eu des pertes, des dégâts collatéraux, on va dire. Par contre, Nora, elle a perdu toute sa famille, mais elle tente de faire bonne figure. Donc on a aussi des têtes connues dans cette série, dont Christopher Eccleston, qui était le 9e docteur de Doctor Who, Liv Tyler, qui jouait Arwen, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait aussi dans Armageddon. Mais aussi tout un tas de personnages qui sont tous campés par des acteurs vraiment tous excellents et super justes. Donc, mettre un petit peu de fond musical. Donc on a en fait des personnages qui tentent de survivre un peu à la pensable, à aller de l'avant, sans vraiment arriver à se reconstruire, sans vraiment faire le deuil, parce que les gens sont disparus, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Donc est-ce qu'ils vont revenir un jour ? Est-ce qu'on les trahit pas, finalement, en reconstruisant notre vie, etc. etc. Donc ça traite de tout ça, mais aussi du deuil collectif d'une société qui a connu un gros drame, puisque bon, 2% de la population, je ne vais faire pas le calcul, mais bon, ça commence à faire un bon nombre. Et en fait, c'est vrai que ça fait un peu écho à certains, à nos sociétés actuelles, avec les attentats, avec des choses comme ça, où on sent que de temps en temps, la société est soudée, puis a un petit peu du mal à aller tous dans le même sens, etc., parce que chacun répond à sa manière. Donc, elle met un peu le temps à poser le décor, cette série, enfin, je trouve, mais par contre, il y a une ambiance, une atmosphère, une fois qu'on est rentré dedans, on est complètement happé. J'ai trouvé qu'elle avait un côté Six Feet Under, je sais que c'est une série qu'on avait assez abordée avec Ludo, dans le sens où elle traite les disparus, elle parle du deuil, mais en fait, c'est pour mieux parler des vivants et de la société à travers des familles dysfonctionnelles et des personnages qui sont blindés de failles et de fêlures, quoi. Je trouve qu'aussi, on a un petit côté post-apo qu'on peut retrouver, enfin vraiment de façon assez légère, mais notamment le personnage principal, Kevin Garvey, qui me fait penser en moins tête à claque à Rick dans The Walking Dead. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve à la tête d'une communauté, qui se retrouve leader malgré lui, mais qui ne sait pas toujours si ses choix, qui sont avant tout pour lui, vont vraiment être bons pour l'ensemble de sa société, enfin de la société au sens global. Et puis, bah voilà, on a un monde qui doit se reconstruire après un gros drame, après des codes qui ont été complètement explosés. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit côté post-apo. C'est assez marqué dans la saison 2. Clairement, où là, il y a vraiment un lien qui se fait, je trouve, avec The Walking Dead ou des choses comme ça, où tout se passe dans une ville grillagée qui est gardée avec des gens qui sont des nantis à l'intérieur, des gens à l'extérieur qui veulent rentrer à tout prix pour un petit peu se retrouver protégés. Enfin, voilà, on retrouve un petit peu ce rapport de force et guerre de territoire. Alors, Damon Lindelof, moi, j'avais pas trop aimé Lost, mais c'est vrai qu'il y avait la religion qui était pas mal ancrée dans son propos. Ça se retrouve encore ici. Ça se retrouve encore ici. Mais ça me dérange pas, en fait. C'est-à-dire que c'est pas asséné à gros coups de dogme ou quoi que ce soit. Loin de là, je trouve que c'est fait de façon assez douce. Je trouve que ça met en exergue justement le fait que les gens, dans une période de crise, etc., cherchent à trouver un sens à leur vie, à être guidés par une certaine spiritualité. De temps en temps, ça entraîne des mauvaises actions, de l'aveuglement, et puis, mais en même temps, ça leur permet de trouver des réponses là où ils n'en trouvent pas ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal trouvé, d'où aussi les sectes qu'on voit un petit peu à droite à gauche et les gens qui voient des signes par-ci, par-là, quoi. Alors pour revenir à la série clairement, donc je vous l'ai dit, c'est 3 saisons, 28 épisodes, je trouve que ça se tient de bout en bout. Chaque saison a été écrite comme un chapitre, vraiment, donc avec un début et une fin, elle pourrait presque se regarder de façon indépendante, en fait, de mon point de vue, j'ai trouvé. Et ça fait un espèce de... Tout est cyclique dans cette série. On a vraiment l'impression que c'est des arcs narratifs, que la boucle est bouclée à plusieurs fois dans la série. On a vraiment l'impression qu'il retombe à chaque fois sur ses pattes, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien géré. Et puis, sans dévoiler quoi que ce soit, ni spoiler... j'ai des collègues qui sont très sensibles à ça. À la fin de l'histoire, en fait... voilà.
Ils meurent tous.
Chaque personnage, en fait, il a connu son propre parcours. Ses désillusions, ses espoirs, etc. Non, mais t'inquiète pas, je raconte pas. Donc.
Excusez-nous, on vous quitte un instant.
Et en fait, chacun répond aux questions qui sont posées au début à sa manière. Et je pense que le spectateur a un peu le même rapport à ça.
C'est-à-dire comme dans Quiz de Freddy, en fait. Ouais.
Chacun, en fait, il interprète selon sa sensibilité, si on est plus axé sur la spiritualité, si on est plus axé sur le fantastique, si on est plus axé sur la poésie, etc. Chacun peut trouver ce qui lui plaît dans la série. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. La fin laisse la possibilité à chacun de se l'interpréter. Voilà. Donc, pour être franc, c'est une série qui m'a vraiment ému. Ça ne m'arrive pas forcément très souvent.
Non, c'est vrai.
J'ai vraiment été emporté. Le fantastique, qui est très très présent, ne posera pas de problème aux plus cartésiens d'entre nous, je pense. Parce que ça, on en fait vite abstraction, en fait. Parce que ça tourne vraiment autour des personnages. La série, l'histoire et les personnages sont super bien écrits. Et les incohérences, parce qu'il y en a forcément, elle n'est pas parfaite,
il y a
forcément
des défauts. Quand même des incohérences.
Mais on ne les cherche même pas, en fait. On se laisse guider, on se laisse porter par le flot de l'histoire. Et vraiment, le gros point fort de The Leftovers,
je vais essayer
de vous mettre quelques illustrations,
ouais,
voilà.
Carrément.
C'est la bande-son qui est vraiment extraordinaire. C'est Mac Richter, qui l'a écrite. Et ça donne vraiment beaucoup d'émotions, ça apporte du poids aux messages qui sont délivrés. Et les morceaux de piano sont vraiment extraordinaires, sans justement à faire du larmoyant ou à vous dire là c'est le moment où vous devez pleurer, donc vous avez pleuré, là c'est le moment où vous devez être content, etc.
Ça incite pas à la déconne quand même, non plus, les morceaux là.
Non, mais la série est pas. J'ai dit, c'est mélancolique, c'est triste,
oui, mais c'est
etc.
C'est pas si triste. Je trouve que c'est traité d'une façon qui nous laisse découvrir ce qui se passe, mais c'est pas. Je suis hypersensible, j'ai pas beaucoup pleuré. En fait, ça m'a embarqué dans une histoire, mais ça m'a pas rendu triste.
Ouais, mais c'est cette approche. Vraiment, on est pris dans le flow, quoi. Donc moi, il suffit, c'est vrai qu'en le préparant, j'ai réécouté quelques notes de musique. La série, on l'a fini depuis quelques semaines, mais rien que de réécouter les notes, un peu la chair de poule, on revoit des flashs, des images, des trucs comme ça, des ambiances, et vraiment la réalisation, la mise en scène et tout, c'est vraiment... Et pourtant, Ludo, on a souvent l'occasion d'en parler, moi, les Madeleines de Proust et les machins comme ça, j'ai rarement ce genre de côté un peu pas nostalgique, mais à me replonger dans le passé. Mais là, vraiment, c'est d'enfer. Le générique de la première saison est magnifique. Mmh. Après, je suis un peu déçu sur les deux autres saisons derrière, j'ai pas bien compris ce qu'ils avaient fait là-dessus. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous y plonger. Moi, j'aimerais bien pouvoir repartir et puis me dire, voilà, je connais rien, je suis vierge de tout et puis je rattaque le truc. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est une série qu'on avait envie de regarder. À chaque fois qu'on a fait un épisode, on a envie de regarder la suite, mais en même temps, on était frustrant en disant, mince, ça en fait un de moins à regarder. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une espèce de course.
On savait qu'à chaque épisode, on s'approchait de la fin, en fait.
Voilà. En tout cas, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Moi, c'est vraiment une série qui me manque maintenant qu'elle est terminée. Donc je vous invite, je ne sais pas si parmi vous ici, il y en a qui ont eu l'occasion de la regarder, de la voir, de la connaître, d'en entendre parler, tout simplement en fait. Je ne sais pas si tu veux venir me contredire ou... ouais, non, n'hésite pas.
C'est de la merde.
En fait, tu n'as rien compris, tu n'es qu'un con. C'est...
non, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vraiment adoré.
Parle bien dans ton micro.
Tu parlais de la musique justement, et la musique est géniale. Je trouve que justement, vous avez comparé à Lost, et je pense que justement, Lost, ça a commencé à devenir un peu...
Alors, je ne l'ai pas comparé, parce que moi, je n'ai pas aimé, justement.
Un peu moins bon à partir de la saison 4. Mmh. Et là, je pense que du coup, justement, il a fait le truc de se dire, je vais arrêter.
Ouais.
Et moi, j'ai bien aimé, justement, le traitement un peu... je trouve que les meilleurs héros, souvent, c'est ceux qui refusent d'être héros. Et Justin Theroux, il le joue super bien ça. Oui. Le fait de,
il subit en fait.
Ouais, voilà, d'être le Messie, mais en fait, il veut pas être le Messie, quoi. En fait, c'est si Jésus avait pas voulu être Jésus, quoi.
Oui, il y a un peu de ça. Oui,
et c'est, dans la saison 3, d'ailleurs. Non, c'est une super bonne série. Tous les acteurs sont super bons. Après, je l'ai vu, et ça commence à faire longtemps là, que je l'ai vu, donc je serais pas. Ça aurait été juste après, parce que j'ai tout maté d'un coup, donc ça aurait été juste après, ça aurait été parfait, j'aurais pu vous en parler.
Non, là, j'ai un peu, je commence, j'ai un peu débris. En fait, on veut pas, en fait.
Là, c'est déjà bien, oui.
Mais non, très très bonne série, disponible sur OCS, hein, parce que oui. faut dire un peu où c'est disponible.
Exactement, t'as tout à fait raison.
Tout est disponible sur OCS, et d'ailleurs, le créateur va faire Watchmen sur HBO, la série Watchmen, oui, okay. Donc...